Fatalitas, chapitre 21. Explication tragique. À la porte de la chambre où Françoise était allée s'enfermer avec son désespoir et la résolution d'en finir avec les horreurs de la vie, une domestique était venue frapper. Elle apportait le mot écrit en hâte par Didier. Françoise, de sa fenêtre où elle avait appuyé son front en feu, venait de voir Gisèle sortir de la villa et quelques instants plus tard, son mari. « Va la rejoindre !» avait-elle murmuré avec une amertume terrible. Quand elle eut lu le billet de Didier qui était ainsi libellé, « Saint-Yves n'est pas mort et continue de poursuivre Gisèle. Ne t'inquiète pas si je rentre tard ce soir. » Elle se dit tout haut à elle-même « Ils sont deux aussi pour celle-là !» comme pour Nina. Ah, le dégoût suprême. Elle déchira le billet et en laissa tomber les morceaux. Ainsi eût-elle voulu arracher son cœur. Mais comme c'était beaucoup plus difficile que de se tirer simplement un coup de revolver dans la poitrine, elle se leva et se dirigea vers un petit meuble où elle savait trouver l'arme qui allait être le grand remède à tous ses maux. En passant devant une glace, Françoise se vit et recula d'effroi. « Mon Dieu !» dit-elle, « j'ai l'air de mon propre fantôme. » Dans le même moment, la porte s'ouvrit et une femme se précipitait vers elle. « Françoise, que se passe-t-il » C'était Madame Martins qui, avertie par la confidence inquiète de la femme de chambre, forçait la consigne. « Oh, ma pauvre enfant, tu as l'air d'une morte !» « C'est ce que j'étais en train de me dire, » répondit Françoise avec un sourire glacé. « Et plût à Dieu que je le fusse déjà. »« Tu m'épouvantes ? Reviens à toi, ma petite Françoise. Qu'est-il arrivé ? Confie-toi à moi, je t'en supplie. Il y a quelques jours encore, tu me parlais de ton bonheur. »« Oui, eh bien, c'est fini. Ça n'a pas été long, n'est-ce pas ? Où est ton mari ? Il faut que je lui parle. » « Mon mari est avec Gisèle. » Ceci fut dit d'une telle sorte, simple et terrible à la fois, que Madame Martins fut renseignée du coup. Elle comprit. Elle prit Françoise dans ses bras, et celle-ci se laissait faire, sans qu'elle parût même s'apercevoir de l'étreinte. « Françoise, Françoise, es-tu folle ? Qu'est-ce que tu crois ? » ?»«
Je ne crois pas, » répondit la statue.
« J'ai vu. » « Tu as vu quoi ? Je les ai vus s'embrasser comme ne s'embrassent pas de... »«
Ça, ce n'est pas vrai !»«
Décidément, » répliqua Françoise avec un sourire d'outre-tombe, « décidément, ma chère, vous croyez beaucoup à la vertu de M. Daumont. Eh bien, apprenez que M. Daumont, qui nous a raconté ce qu'il a voulu concernant Nina Noah, est par-dessus le marché l'amant de Gisèle. »
« Malheureuse, c'est sa fille !»
À cette révélation, la statue parut se ranimer. Du sang afflua à ses tempes. La vie alluma sa flamme dans ce regard éteint.
« Sa fille ? Sa fille ?»
répéta Françoise. « Et comment savez-vous donc, madame, que c'est sa fille ?
Ah ! Je le sais depuis 15 ans !»«
Vous savez cela depuis 15 ans ?» « Depuis 15 ans, vous savez que Gisèle est
la fille de Raoul de Saint-Dalmas.
Oui, ma petite Françoise, je sais cela. Mais comprends donc que j'ai reconnu ton mari tout de suite. Notre famille était amie des Saint-Dalmas. » Françoise considérait Madame Martins avec des yeux hagards.
« Hein ? » soupira-t-elle. « Vous saviez qu'il... »
« Je sais que tu as été sublime. Je sais comme toi qu'il est innocent. Oh, Françoise, Françoise, parce que tu l'as vu embrasser Gisèle, mais c'est sa fille, mais c'est sa fille !»
Maintenant, Françoise tremblait de fièvre. Elle claquait des dents.
« Pourquoi ne me l'a-t-il pas dit à moi ? Pourquoi vous a-t-il dit à vous une chose pareille ?» Madame Martins prit entre les siennes les mains glacées de la malheureuse et les plaça sur son cœur ami, sur son cœur douloureusement fidèle.
Ah, crois-moi, Françoise, il était résolu à tout te dire, après avoir révélé à Gisèle le secret de sa naissance. Si tu les as vus dans les bras l'un de l'autre, c'est que maintenant l'enfant sait tout. Ah, Françoise, ne doute pas de ton mari. C'est le meilleur et le plus malheureux des hommes. Et si une faute a été commise, ce n'est pas lui le plus coupable.
Vous connaissez donc la mère de Gisèle, madame ?
Non, ceci est le secret de Raoul. On parlait d'une femme mariée. Je dis que cette femme est coupable, car elle n'a rien fait pour cet enfant, et que la première chose qu'a faite Raoul en sortant de son enfer a été de la chercher, de la sauver de la misère, de lui apporter une protection de tous les instants. Ne t'étonne pas que je plaide la cause de ton mari avec cette chaleur. Je l'ai connu il y a longtemps, il était jeune, il a fait des folies, mais c'était un noble cœur. Et chez nous, dans notre famille, je parle chez mon père, chez ma mère où il fréquentait, nous n'avons jamais douté de lui. Jamais. Ah, Françoise, comprends mon émotion l'autre jour quand je l'ai reconnu dans ce mari que tu me présentais. Ton mari. Comprends maintenant que depuis, il m'a confié toute votre terrible histoire. Il sait qu'il peut me parler comme à la plus fidèle amie. Il sait comme je t'aime, ma petite Françoise. Si tu savais, toi, avec quel accent il est venu me dire « Elle savait tout et elle a continué de m'aimer. » Son amour, la seule chose qui compte pour moi en ce monde, me sauve, et le bagne peut revenir, et la mort peut me frapper. Je remercie le ciel, car j'ai été le plus heureux des hommes, à cause d'elle, à cause de ma Françoise. » Et en disant cela, il sanglotait « Ah, laisse-moi pleurer !» Mais déjà, Françoise pleurait, elle aussi. Ce fut Françoise qui, la première, reconquit la pleine possession d'elle-même. « Mais alors, fit-elle, mais alors, cette histoire de poursuite est vraie? Et Didier, où est-il? Quel danger court-il encore ?» C'était au tour de Madame Martins de ne pas comprendre. Françoise la mit au courant du départ précipité de Gisèle, suivi de Didier. De toute évidence, il s'était passé quelque chose d'inattendu, et peut-être de très redoutable. Et il ne rentre pas. Elle voulait sortir, essayer de le retrouver. Madame Martin lui fit entendre qu'elle n'avait aucune indication, aucun indice. Elle lui fit espérer qu'il pouvait rentrer d'un moment à l'autre. Enfin, elle la persuada, beaucoup plus facilement qu'elle n'avait osé l'espérer, de rester à la villa pour qu'elle y attendît le retour de Didier. Madame Martins, alors, la voyant plus calme, la quitta. Aussitôt que Madame Martins fut partie, Françoise, jetant une écharpe sur ses épaules, descendit par la terrasse jusqu'à la mer et, à travers les rochers, se dirigea vers une certaine cabane de pêcheurs. Chapitre 22 À fond de cale. Pallas était fort bon nageur. Ce fut un jeu pour lui d'atteindre en quelques brassées, et sans être aperçu du bord, la chaloupe que la Tullia traînait derrière elle à la remorque. La nuit commençante semblait propice à son hardi dessein. Se hissant, à l'aide du cordage qui retenait la chaloupe, jusqu'au bastingage de la Tullia, il choisit son moment pour se glisser vers le gaillard d'arrière. Tout l'équipage était alors à la manœuvre, et il ne lui fut point malaisé de se dissimuler derrière quelques ballots qui encombraient le pont. De là, il pouvait voir et entendre. Où était sa fille? Qu'avait-on fait de sa fille? Il y avait bien des chances pour que la malheureuse fût retenue prisonnière dans le rouf central, qui devait être le seul endroit à peu près propre du bord, servant de dortoir, de salle à manger et de carré aux officiers. Les officiers de la Tullia. Pallas venait de voir passer quelques figures. Tout ce monde-là lui rappelait certaines silhouettes qui avaient habité ses cauchemars pendant 10 ans. Comme il n'avait pas encore aperçu Arrigonde, Pallas était à peu près certain que celui-ci devait se trouver auprès de Gisèle. Se rapprocher de sa fille, l'avertir de sa présence au plus tôt, tenter de l'enlever si la chose apparaissait possible, et cela dans la nuit même, n'était pas un plan irréalisable, grâce à la chaloupe que la goélette traînait derrière elle. La Tulia avait mis le cap sur l'Orient, mais n'était pas très éloignée de la côte. Pallas pouvait espérer que le Parisien cesserait, pendant quelques instants, à l'heure du repas, d'imposer à la malheureuse enfant son ignoble présence. Alors, il saurait la délivrer. Alors, la chaloupe était là, prête à recueillir Pallas et Gisèle. Avant tout, il fallait agir avec une excessive prudence. Un geste maladroit pouvait les perdre tous les deux. Pallas pensa que la surveillance devait forcément se relâcher en pleine mer. Les forbans n'auraient plus rien à craindre. Et peut-être même, Pallas allait-il bientôt voir apparaître sur le pont la captive et son ignoble ravisseur. Cependant, le temps passait, et Gisèle restait invisible. Alors, les pensées de Pallas devinrent tellement sombres que son immobilité lui fut tout à coup insupportable. Cette effroyable brute d'Arrigonde était capable du crime le plus odieux. Pallas regretta de n'avoir pas accepté que Yo-Yo vînt partager, comme il le lui avait offert, l'aventure. Il avait cru plus habile de l'expédier immédiatement à Chéri-Bibi pour que celui-ci fût instruit du drame que la Tulia emportait dans ses flancs. Pallas n'y tient plus. Il quitte son refuge. Il profite de ce que les hommes de quart sont tous, dans le moment, réunis sur le gaillard d'avant, pour ramper sur le pont et gagner du côté de la grande écoutille qui restait ouverte sur la cale. À la suite d'une manœuvre inattendue, il n'eut que le temps d'arriver à cette écoutille et de se jeter sur cette échelle. Des commandements, des coups de sifflet ont retenti. Des hommes accourent, le second apparaît. La manœuvre rompt le calme de la nuit. Le bâtiment a changé de route, remis le cap sur l'horizon. Et maintenant, il danse à la lame. Pallas a descendu encore quelques échelons de peur d'être aperçu. Et soudain, quelque chose se passe au-dessus de sa tête qu'il ne comprend pas tout d'abord. Les hommes achèvent de fermer la grande écoutille, glissant les panneaux au-dessus de sa tête. Ils l'enferment à fond de cale. Et cela sans qu'il s'en doute, de toute évidence. Pallas a laissé faire, épouvanté, mais espérant tout de même encore que tout à l'heure, quand le pont sera redevenu désert, le panneau cédera à son effort tout puissant. La force accomplit de tels miracles au bagne que lorsqu'elle en est sortie, elle a peine à croire que quelque chose lui résistera, surtout lorsqu'elle a, pour la décupler, des sentiments comme ceux qui bouillonnent dans le cœur de Pallas. Quelques minutes d'immobilité et de stupeur. Il est là, suspendu à une échelle, dans l'abîme noir. Va-t-il escalader la nuit? Va-t-il descendre au fond des ténèbres, chercher à tâtons quelque issue? Le balancement du navire s'est accentué, mais le roulis a cessé. La Tulia doit maintenant filer, appuyée sur le vent. Il monte et sa tête heurte le panneau. Sa main le tâte et glisse. Maintenant, ses épaules s'arc-boutent. Obscure cariatide dans le néant noir de cette cale, il déploie une force prodigieuse et vaine. La sueur coule sur ses muscles vaincus. Mais tout à coup, un ray de lumière glisse comme une lame d'argent dans l'interstice de deux planches et apporte un peu de vie au fond de cette nuit opaque. Il tend la main à cette lumière et l'accueille dans sa paume comme une onde pâle et glacée. Mais elle lui échappe, disparaît. On a dû jeter quelques bâches là-haut. Ne pouvant plus monter, il descend. Il descend et il écoute. Un murmure, des voix, le grondement d'une voix d'homme et un sanglot. C'est sa fille. C'est sa fille qui pleure. Oh, alors il prend la nuit à plein bras et il se bat avec elle, avec les formes mystérieuses dont elle encombre son chemin. Avec quelle force et quelle prudence il lutte contre le noir. Comme il le repousse, le rejette, l'écarte, le roule sous lui et lui met les genoux dessus. Ah, c'est une besogne formidable que de déplacer un arrimage pareil. Mais il y a sa fille qui pleure derrière tout ça. Il s'arrête et n'entend plus rien. Cette douleur le guidait. Maintenant, il regrette que sa fille ne pleure plus. Alors, à tout hasard, il bouscule encore la nuit. Et quelque chose cède dans la nuit, quelque chose qui lui rompt les bras et l'écrase. Mais quelque chose derrière quoi apparaît une petite lueur, une petite lumière couleur de sang. Et en même temps, une voix d'homme accourt jusqu'à son oreille, une voix d'homme qu'il connaît bien et qui dit « Tiens, où est passé le couteau ?» Gisèle était montée à bord de la Tullia, persuadée qu'elle n'avait rien à craindre pour elle. Dans son taxi, elle avait réfléchi que la manœuvre dont un anonyme menaçait, dans le moment M. Daumont, était avant tout une tentative de chantage. Chantage terrible et qu'il fallait subir, et pour lequel elle avait été choisie comme intermédiaire parce qu'elle était peu à redouter. Et il allait sans doute falloir s'entendre. On allait lui fixer un chiffre et on agirait sur son esprit pour qu'elle déterminât M. Daumont à céder. Elle avait donc suivi le capitaine sur la Tullia avec docilité et décision. Sur la prière de celui-ci, elle était descendue dans le rouf central. Un coin d'élégance inattendue, ce rouf de goélette, soigné, ciré, astiqué comme une jolie cabine de maître à bord d'un voilier de plaisance. Là se trouvait un homme dont elle ne pouvait apercevoir la figure qu'assez mal dans l'ombre. Le capitaine alluma lui-même la lampe suspendue au-dessus de la table centrale, entre deux petites alcôves qui servaient de divan le jour et qui se transformaient en couchette la nuit. Mais Gisèle poussa un cri. Elle venait de reconnaître Monsieur de Saint-Yne. Et aussitôt, d'un mouvement spontané, elle voulut se rejeter en arrière, regagner le pont. Mais déjà, Arrigonde la retenait de force, la rejetait au fond du rouf, cependant que le capitaine, qui sans doute en avait vu bien d'autres, refermait lui-même les deux battants de la petite porte et remontait en sifflotant un vieil air barbaresque, lancinant et mélancolique. « Je vous demande pardon de cette brutalité. » Commença par déclarer Monsieur de Saint-Yne en s'inclinant avec galanterie. « Mais j'éprouve tant de joie dans votre compagnie que l'idée de vous perdre par un stupide malentendu me fait sortir de mon naturel, qui est généralement aimable avec les dames. » Et comme Gisèle ne répondait pas, le considérant avec un effroi grandissant, « Ne tremblez pas ainsi !» continua-t-il. « Je ne vous veux aucun mal. Au contraire, je ne suis ressuscité que parce que je vous veux du bien. » Elle se taisait toujours. Alors il soupira. « Ainsi, mon enfant, vous aussi, vous me croyez mort. Vous avez dû bien pleurer. » Même silence. Monsieur de Saint-Yne recommença de s'excuser. « Qu'est-ce qu'a bien pu vous raconter votre canaille de père ? Vous a-t-il dit que nous avons été au bagne ensemble et que nous faisions là-bas une jolie paire d'amis ? » Cette fois, Gisèle parla, ou plutôt râla, le suppliant de se taire. « Si vous ne voulez pas que je devienne folle, taisez-vous. » Elle ne put en dire davantage. Elle l'étouffait sous les sanglots. « C'est la première fois que je fais pleurer une femme !» ricana Arrigonde. « Vous m'envoyez, ma chère enfant, aux mille regrets. Si vous étiez raisonnable, vous vous feriez un peu moins de bile pour votre noble père. Il est loin de mériter l'intérêt que vous semblez lui porter. Et surtout, c'est un bon homme, voyez-vous, dont il convient de se méfier. » Et comme Gisèle avait levé sur lui un regard terriblement hostile au milieu de ses larmes, il s'expliqua. « Ainsi, moi qui vous parle, qui vous regarde, qui vous admire et qui vous aime. Eh bien, s'il n'avait tenu qu'à lui, je ne pourrais ni vous parler, ni vous répondre, ni vous admirer, ni vous aimer. L'affaire avait été bien montée, allez. Et il a pu me croire convenablement trépassé avec quelques camarades. Qu'est-ce que c'est pour l'assassin du banquier Reynaud que la mort de 3 ou 4 vieux camarades de bagne qui le gênent? Je vous en prie, mademoiselle, ne vous trouvez pas mal. La conversation n'est pas encore terminée. Et puis, je vais vous dire, je n'en veux pas du tout à monsieur votre père. Au contraire, moi je l'admire, cet homme-là. Et la preuve, c'est que je veux entrer dans sa famille. Vous voyez que tout peut s'arranger. Mademoiselle Gisèle, monsieur de Saint-Yne a l'honneur de vous demander votre main. Gisèle, maintenant, était renseignée sur le genre de chantage adopté par Saint-Yne et sur ce qu'on voulait d'elle dans cette affaire. Et maintenant, quelle que fût sa fièvre, si grande que fût son horreur, en dépit du trouble plein d'épouvante où la jetaient ses propos terribles pour son père, au fond de l'abîme où elle se débattait, sa pauvre, sa misérable pauvre petite perspicacité féminine en éveil lui faisait entrevoir une possibilité de salut, ou, tout au moins, espérer le retard de la catastrophe, une suspension des coups du destin, dans un moment où elle était à l'entière disposition de son bourreau et où elle pouvait craindre le pire. Ce n'était point seulement de l'argent que le misérable voulait, comme elle l'avait d'abord cru quand il n'était encore pour elle qu'un anonyme. Ce n'était pas seulement elle-même, Gisèle, qu'il désirait, comme elle l'avait pensé quand Saint-Yne avait si subitement ressuscité au fond de ce traquenard. C'était la fille et l'argent. Ces dernières paroles ne laissaient aucun doute à cet égard. Ce n'était pas ironiquement qu'il avait demandé la main de Gisèle. Il l'avait demandé sur un ton terriblement sérieux. Gisèle comprit ce que représentait pour ce bandit la réussite d'un plan pareil. Et la force d'un Saint-Yne marié à la fille, fut-elle naturelle, de monsieur Daumont. Gisèle s'était replongée la tête dans ses mains. Arigonde crut que le moment était indiqué d'intervenir et il s'assit auprès d'elle. Il voulut lui prendre ses petits poings qui s'obstinaient à cacher un visage dont la vue lui avait toujours été agréable. « Ah, ça » fit-il. « Mon seul aspect vous fait donc peur ?»« Non !» eut la force de répondre la jeune fille sur un ton très bas, très épuisé, mais qui déjà avait perdu quelque chose de son hostilité et de son humeur première. « Ce sont vos manières qui me font peur. » « Eh bien, pour vous faire plaisir, je vais en changer, et tout de suite. Tenez, je ne veux plus être que le plus humble et le plus dévoué de vos esclaves. Tous, à bord de la Tulia, nous sommes vos esclaves, mademoiselle Gisèle. Pour commencer, je vais vous servir de steward, voulez-vous? Vous devez avoir faim, non? Moi, je vous dis qu'il faut manger. Tenez, vous allez voir comme cela va être gentil. « Nous allons faire la dinette tous les deux. » Gisèle ne dit pas non. Si malin que soit un homme, si fort, si intelligent qu'il puisse être, un air de femme, simplement l'air qu'elle prend pour parler ou pour ne rien dire, est plus fort que lui. Le galant est roulé d'avance par une enfant innocente et même par une niaise. Par exemple, le Parisien. Au fond de cette cabine de bateau transformée en cabinet particulier, s'imagine que son charme opère. Encore une qui n'aurait pas fait longtemps la méchante. Aussi faut-il le voir maintenant, empressé et galant. Il raconte des histoires amusantes, il veut paraître spirituel, il est aux petits soins, il se dérange pour le moindre objet. Gisèle est conquise. Et le voilà tout à coup revenu encore une fois de loin, de très loin, en apercevant dans une petite glace le geste de Gisèle, qui, pendant qu'il a le dos tourné, ramasse sur la table un couteau qu'elle fait disparaître. Tremblant de fureur à peine contenue, il revient à Gisèle, et la malheureuse voit se pencher sur elle un visage qui lui sourit affreusement et qui lui demande, les yeux dans les yeux, « Tiens, où est donc passé le couteau ?» Harigon n'a même pas besoin de faire un geste pour le lui reprendre, ce pauvre petit couteau. Gisèle le jette sur la table en balbutiant « Ce n'était pas pour vous !»« Vraiment ? Et pour qui donc, mademoiselle ? Pour qui, le petit couteau ? Pour moi !» Le Parisien éclata d'un rire sinistre. « Des idées de suicide ! Ça vous passera !» Et Gisèle sanglote. Son geste malheureux a refait de cet homme un abominable tyran. « Allons » commença-t-il. « Assez pleuré comme ça. Essuyez vos larmes, je vous prie. Je ne veux pas qu'on vous voie avec les yeux rouges, moi. Pour qui me prendrait-on » Il s'est levé et ordonne à Gisèle de le suivre. « Nous allons faire un petit tour sur le pont. Cela vous fera du bien de prendre l'air. Ça vous changera les idées. Vous paraissiez plus raisonnable tout à l'heure. Il faudra le redevenir, ma petite. » Il la fait passer devant lui. Elle obéit. La voilà sur le pont par une nuit magnifique. Elle n'est plus qu'une misérable petite chose entre ses mains. Elle se sent perdue, complètement à la merci des caprices de ce monstre. Elle regrette amèrement le couteau du suicide. Pendant que l'autre, qui a passé son bras sous le sien, reprend un ton idyllique et lui fait des phrases sous les étoiles. Évidemment, M. de Saint-Yne pose pour la galerie. Il sait qu'il est regardé. Le capitaine Amorgos et le jeune Nicopoli, son second, par la méchanceté de son venin, une vraie vipère, ne doivent pas être bien loin. Et Pian, sans s'en donner l'air, le moindre geste de cette promenade des deux amoureux sur le pont, par le plus beau clair de lune du monde. Il ne déplaît pas à Harigonde de montrer à ces messieurs comment, en quelques heures, il a su conquérir sans tapage les bonnes grâces d'une charmante demoiselle, qui, dès l'abord, en l'apercevant, avait commencé par manifester un désespoir mortel. Devant les yeux qui le regardent manœuvrer, peut-être du haut de la cabine de dunette, peut-être derrière la misaine, il affecte ces façons auxquelles les amants ne manquent point d'avoir recours quand ils désirent prouver à l'univers qui les entoure que la dame qu'ils accompagnent n'aura bientôt plus rien à leur refuser. Ce sont de ces airs penchés et enveloppants, de ces attentions délicates, mais un peu familières, qui ne sont permis qu'aux élus. Ah, comme Gisèle avait envie de crier vers les étoiles. Mais les étoiles sont trop haut, elle ne l'entendrait point. Et pour comble de malheur, pas l'ombre d'une voile sur la mer, pas une lumière humaine, pas un espoir à l'horizon. Que va-t-elle devenir, Seigneur ? Redescendre dans cette horrible prison. Hélas, voilà que le moment en est venu. Monsieur de Saint-Yne a jugé que cette comédie a assez duré. Il conduit les pas hésitants de Gisèle vers l'escalier du rouf. Mais la jeune fille s'arrêta soudain. Harigonde comprend maintenant que la perspective de se retrouver enfermée avec lui va pousser Gisèle à quelques manifestations désespérées. Elle va appeler à son secours, comme une petite bête, et il va être ridicule. Cette physionomie crispée, ses membres tremblants, il n'est pas difficile de deviner que cet enfant est prêt à toutes les résistances. Alors il joue le grand jeu. Il lui dit qu'elle peut aller se reposer sans crainte. « Il n'est pas une brute, » prétend-il. Et ce n'est pas dans une cabine de cargo qu'il a rêvé de posséder un bijou aussi rare. Il saura attendre, il saura se faire aimer. Et d'autres balivernes. Ne doit-elle pas être sa femme? Elle peut aller reposer en paix. Et, la saluant noblement, il s'éloigne. Elle l'a regardé partir d'un air hébété. Et puis tout à coup, elle s'est mise à descendre cet escalier redoutable, comme si quelque chose de plus fort qu'elle, de plus puissant que sa volonté, la tirait là, en bas. Amorgos et Nicopoli, Le capitaine et le second de bord se sont bien amusés, certes, et maintenant ils ne cachent rien du plaisir que leur a procuré la petite récréation de tout à l'heure. Ils ne manquent point d'en faire part à ce cher monsieur de Saint-Yne, qui a vraiment du succès auprès des dames. On a bu quelques bouteilles, les cerveaux s'échauffent, les imaginations s'enflamment, les amours propres se froissent. Celui de monsieur de Saint-Yne est à la torture, et depuis trop longtemps, pour sa patience. Il ne saurait douter que ses compagnons se moquent de lui. Et voilà qu'il se lève, en frappant la table d'un coup de poing formidable, comme un mal élevé. Ce petit Nicopoli lui porte particulièrement sur les nerfs. « Je fais ce que je veux, » atteste Saint-Yne, « quand je veux et où je veux. »« Tu fais surtout ce qu'elle veut, » réplique Nicopoli. « Tu n'es pas plus malin que les autres. Elle te mène par le bout du nez. Et la preuve, c'est que tu es là à nous raconter des histoires pendant qu'elle se fiche de toi dans sa cambuse. » L'autre s'est mis à jurer, ce qui ne saurait remplacer des raisons. Brutal, il renverse quelques flacons vides et apparaît sur le pont. On sait où il va. Il a prononcé ces mots « Ce soir, si ça me plaît ». Et il paraît que ça lui plaît ce soir, car il écarte le matelot de garde devant le rouf et descend, avec un grand tintamarre d'homme saoul, l'escalier qui conduit à la chambre de Gisèle. Une lueur rougeâtre, venue de la lampe charbonneuse, éclaire sinistrement la petite pièce vide. Une ombre est étendue dans l'une des alcôves. Vers cette ombre-là, la brute se penche. Il n'y a plus ni calcul ni comédie. Il y a là une femme et son maître. Tant pis, ou tant mieux, s'il y a du bruit. On saura qu'il est au bout de sa patience. Chapitre 23. Chéri-Bibi est toujours à la hauteur. Françoise se dirigeait vers la cabane du pêcheur Silvio. Depuis sa première, son étrange et terrible entrevue avec Chéri-Bibi, elle n'avait cessé de penser à cet être formidable dont la mentalité lui échappait et qui s'était constitué, à la porte de chez elle, le gardien de son bonheur. Qu'un homme comme Didier Daumont, même ayant passé par le bagne, et pu devenir l'ami d'une telle créature, née pour le crime, condamnée au crime, voilà qui défiait toute explication. Et cependant, Françoise avait entendu dans cette bouche maudite des mots d'une telle pitié et aussi d'une telle douceur quand il parlait de l'innocent. Oui, mais il est innocent, lui. Qu'elle sentait instinctivement que c'était vers ce monstre qu'il fallait aller, si elle voulait du secours. Elle était sortie en frissonnant de l'antre de la bête, mais plus d'une fois, dans les moments les plus difficiles, sa pensée inquiète s'était rassurée parce qu'elle savait que, là-bas, pas bien loin des terrasses, la bête veillait. Ainsi qu'au lendemain de la nuit tragique, quand elle était venue sur ces rochers quérir la clé du mystère, elle frappa à la porte du pêcheur Silvio. Cette fois, il n'était point seul. Il y avait même grande réception dans la cabane de Silvio, et l'ombre en paraissait si irrégulièrement peuplée que Françoise recula. Mais Chéri-Bibi déjà s'était avancé. D'un geste de grande Espagne, il invitait la visiteuse à pénétrer dans son humble demeure. « Soyez la bienvenue chez le pauvre pêcheur Silvio, madame. Dans les temps que nous traversons, où la méchanceté et la malice des hommes dépassent toute mesure, c'est un spectacle réconfortant que celui de ces cœurs fidèles. » Ce fut d'abord à Yo-Yo d'être présenté. Moins que les autres, le pauvre garçon, dans le moment, ne payait pas de mine. Il était encore tout essoufflé de la course qu'il avait fournie pour venir apporter à Chéri-Bibi les dernières nouvelles. Et il était assez lamentablement accompagné de ses accessoires de pêcheur à la ligne qu'il avait achetés à un amateur sur les quais du vieux port de Nice. L'illustre docteur Ross de Chicago. commença Chéri Bibi. Le plus renommé chirurgien-dentiste de la cité d'Azur, la coqueluche de ces dames, et un grand ami de la célèbre Nina Noah. Françoise tressaillit en entendant ce nom, et elle se demanda pourquoi le bandit, qui était au courant de tout, le prononçait devant elle. Elle ne comprenait point non plus la raison pour laquelle tout ce joli monde lui était présenté. L'étrangeté de la scène, la vision inquiétante de ces figures entreaperçues dans l'ombre, le ton singulièrement exalté du pêcheur Silvio, tout lui faisait peur. Mais elle avait confiance. Elle sentait que, quels que fussent les gestes et les paroles de cet être énigmatique et terrible, il y avait quelque chose entre deux qui liait formidablement la femme du monde au forçat. L'amour de l'une et l'amitié forcenée de l'autre pour Pallas. Celui-ci, madame, est monsieur Hilaire, honorable commerçant du quartier Saint-Roch, à Paris, ex-chauffeur à Nice de monsieur de Saint-Yne, autre ami de mademoiselle Nina Noah et du comte de Gorbio. Françoise, haletante, recula d'un pas, devant le salut un peu trop prononcé du long corps de la ficelle, qui se cassait devant elle avec une politesse pleine de trouble et de précipitation. « Très honorée, madame, de faire votre connaissance. » « Quant à cette petite, » terminait le pêcheur Silvio, « c'est mademoiselle Zoé, issue d'une excellente famille de bohémiens. Elle s'est faite chanteuse des rues depuis que sa maîtresse, mademoiselle Nina Noah, s'est privée de ses services de soubrette, un soir qu'elle l'avait surprise écoutant aux portes. Maintenant, Françoise comprenait. Tout ce petit monde avait été les yeux et les oreilles de Chéri Bibi, autour de Nina et de Gorbio, c'est-à-dire autour du danger qui menaçait Didier. Zoé n'avait pas achevé sa révérence que la voix de Chéri Bibi grondait tout à coup. « Et maintenant, vous autres, allez voir dehors si j'y suis. » La bande disparut comme une volée de moineaux effarouchés. Le bandit et Françoise se trouvèrent seuls. La pauvre femme n'eut pas le temps d'ouvrir la bouche. « Je sais ce qui vous amène, » prononça Chéri Bibi sur un ton effroyablement lugubre et qui n'était certes point fait pour redonner de l'espoir à la visiteuse. « Rassurez-vous, nous le sauverons encore cette fois-ci. » Madame Daumont se laissa tomber sur un escabeau. Elle n'avait plus la force de se soutenir. À l'air de Silvio, à la façon dont il lui parlait, elle ne pouvait plus douter qu'une catastrophe nouvelle menaçait son Didier. Silvio eut pitié de tant de faiblesse. Lui aussi était profondément ému, et toute la rudesse de son accueil, toute l'exaltation de ses propos, était bien destiné un peu à masquer cette émotion-là. Cependant, il n'y parvenait qu'à demi, et sa grosse voix tremblait en disant à Madame Daumont « Madame, vous êtes une sainte, et le ciel vous a mise sur la terre pour vous faire souffrir comme seul il s'est fait souffrir les saintes et les misérables comme moi. Avec vous, pas de subterfuge, pas de petits moyens, pas de vaines paroles, pas d'hypocrisie. La vérité toute nue. Vous m'avez déjà prouvé une fois que vous pouviez la supporter. À vous votre courage, et nous sortirons encore de cette vilaine affaire-là. Votre mari est tombé dans un traquenard. On lui a fait croire que cette jeune fille que vous aviez recueillie chez vous courait les plus grands dangers, et il l'a suivie à bord d'un bâtiment qui a pris immédiatement le large et qui est commandé par l'un de ses pires ennemis. Par un monsieur de Saint-Yne, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. » Et Chéri Bibi acheva brutalement et sur un ton où éclatait toute sa colère contre la fausse innocence d'une enfant qu'il croyait capable de la pire intrigue. La jeune fille en question était d'accord avec Saint-Yne. Françoise poussa un cri. « Ça n'est pas vrai! Je l'ai cru moi aussi, mais je viens d'apprendre que c'était la fille de Didier. »
« La fille de qui ?» hurla Chéri Bibi.
« Mais sa fille à lui, comprenez-vous, sa fille !»«
Oh !»
Et ce fut au tour de Chéri Bibi de s'effondrer. Il se heurta au mur, et les murs de sa cabane autour de lui parurent vaciller. Nous avons eu l'occasion, à bien des reprises, de juger en quels termes élégants, mesurés et quelquefois raffinés, Chéri Bibi aimait à s'exprimer devant les dames. Mais cette fois, la surprise était trop rude, et il perdit toute notion de cette haute civilisation à laquelle il s'était initié jadis, avec un élan digne d'une meilleure destinée, et dont il savait se souvenir dans les grandes occasions. Pas une seconde, il ne douta de la révélation que lui apportait Françoise. Elle expliquait trop de choses et qu'il avait fait trop souffrir pour qu'il ne l'accueillît point avec une allégresse triomphante. Elle innocentait son palace, elle le remettait en place dans son cœur. Mais ce cœur misérable, qui avait douté, lui, de son palace, combien était-il coupable ? Chéri Bibi avait assisté à une promenade de Pallas et de Gisèle, et cela lui avait suffi pour qu'il crût Pallas infâme. Récemment, il avait également été témoin de la douleur jalouse de Françoise, et il avait gémi sur elle, et il était parti de là en maudissant Pallas. Chéri Bibi, se souvenant de cela, frappa sur son cœur infidèle comme sur un tambour. Son poing fermé meurtrit effroyablement sa poitrine retentissante. Il était effrayant à voir et terrible à entendre. « Gratte pavé, godin, orphelin, buteur et fourline, surineur à la manque, tu mériterais de te faire gerber à la passe pour une sonquerie pareille, à Chaillot, bourriche et buzard, et toi, mon brûlant qui ne m'a rien envoyé. » « Et toi, mon cœur qui ne m'a rien dit, je te tamponnerai jusqu'à ce que t'aies perdu le goût du soupir. » Françoise put croire qu'il allait se tuer sur place avec son poing. Elle râlait d'épouvante et n'osait faire un mouvement. Ses cris d'une amitié farouche et qui n'avait plus rien d'humain lui inspiraient maintenant autant de terreur que les manifestations de la haine la plus redoutable. Elle avait fermé les yeux et claqué des dents. Quand Chéri Bibi, revenant à lui, l'aperçut et daigna s'occuper d'elle. « Vous et moi, madame, lui dit-il, nous avons été bien coupables. Pallas ne méritait pas cela. Mais c'est assez perdu notre temps en lamentation. Vous allez rentrer chez vous et nous allons nous mettre au travail, nous autres. Qu'allez-vous faire? Ce serait trop long à vous raconter. Qu'il vous suffise de savoir qu'on vous le ramènera. « Je ne vous quitte pas. » Il fit « Ah !» et la regarda longuement. « Vous ne savez pas où nous allons. Vous allez me le dire. Nous allons à San Remo, où le bateau qui emporte votre mari doit faire escale. Vous voyez comme c'est simple. Vous n'avez pas besoin de vous faire de bile. Je vais avec vous à San Remo. » « Ah !» Il la regarda encore. « Écoutez, lui dit-il. « Je vous emmènerai si vous me promettez d'être bien sage là-bas. »« Comment cela? Il ne faudra pas nous gêner. Je vous aiderai. »« À quoi? Je ne sais pas, mais je ne vous quitte pas. » Chéri Bibi mit un genou à terre et baisa le bas de la robe de Françoise. Puis il se releva, ouvrit la porte de sa cabane, fit un signe. Les trois autres entrèrent. Alors, d'une voix très calme, il leur donna des ordres relatifs au voyage. Le docteur Ross devait s'occuper des passeports pour la frontière. Monsieur Hilaire, de l'auto. Chéri Bibi avait refusé celle de Françoise. Et la petite Zoé, de diverses commissions urgentes. Quand ils furent partis, Chéri Bibi dit à Françoise « Comprenez pourquoi je vous ai présenté ces oiseaux-là, chère madame. » Nous traversons une période difficile où monsieur et madame Daumont doivent savoir sur qui compter quand ils se trouveront dans l'embarras. Vous allez les voir à l'œuvre. Ce sont de braves gens. Ce sont aussi des amis de mon mari ? Demanda Françoise rêveuse. Non, madame, ce sont des amis de moi. Mais sur un signe de moi, ils sont prêts à se faire tuer pour votre mari. S'ils ne sont pas morts déjà, ce n'est pas de leur faute. « Mais enfin, qui donc êtes-vous pour aimer et être aimé pareillement ?»« Je suis le crime, madame. » Chapitre 24. Petite fête à bord. Nous avons vu Harrigon descendre dans le rouf, poussé par l'alcool, les rires de ses compagnons et les pires instincts. Soudain, comme il est courbé au-dessus de cette ombre qui semble endormie, ce dont il eût dû se méfier à cause qu'il avait fait tant de bruit, l'ombre se soulève, un front se dresse vers son front, des yeux rencontrent ses yeux, épouvantablement pâle, dégrisé. Ce n'est pas Gisèle qui est là, c'est Pallas. Pallas qui bondit sur lui. Il essaie d'étouffer son appel rauque, d'annihiler les mouvements furieux de ce corps qui rue. Ah, du bruit il y en a, hélas, si bien que là-haut, Amorgos et Nicopoli ne peuvent pas se regarder sans sourire. Décidément, Monsieur de Saint-Yne a bien du mal à se faire comprendre.
« Il avait la bouche un peu pâteuse, » explique Nicopoli.
Mais le tapage devint tel que le matelot de garde appela les deux officiers. « Si nous n'intervenons pas, » dit Amorgos, « il ne va plus rester que des morceaux. » Et ils intervinrent. Ce fut une lutte atroce dans ce petit carré, où bientôt Pallas, à moitié assommé et réduit à l'impuissance, râlait et était jeté, ficelé comme seuls les marins savent le faire, sur l'une des couchettes. Quant à Gisèle, on ne fut pas long à la retrouver, derrière les planches qui avaient livré passage à Pallas, dans la cale d'où on la tira plus morte que vive, et avec une horrible brutalité. Elle fut traitée comme son père. Entre les deux colis humains, un homme fut placé, armé jusqu'aux dents. Le Parisien fut hissé sur le pont dans un état lamentable. Il avait une grave blessure à la tête, mais une seule chose le préoccupait. Comment Pallas se trouvait-il à bord? Pendant qu'on le soignait, il dit à Amorgos, « Capitaine, il sera plus prudent de ne pas nous arrêter à San Remo. » Pirates, flibustiers, contrebandiers, tous frères de la grande aventure, sont bien connus pour n'être point de petits anges. Ils ont conservé à travers les siècles, et cela sans aucun doute, à cause d'une existence toujours menacée d'être tranchée brutalement dans le meilleur de son cours, le goût de la ripaille, des festins et de la débauche. Pour peu que leurs instincts de bêtes sauvages est encore trouvé à se développer dans une période de guerre où tout sur les vastes mers devient leur proie, il n'est plus bientôt de plaisir qu'ils se refusent. Et le plus apprécié d'une bande de forbans qui s'est confortablement gavée de mangeailles et d'alcool est, à coup sûr, au dessert, la vue des larmes d'une belle captive qu'on dénude sans vergogne et qu'on attache classiquement sur le pont pour son supplice. Ce qui se passa sur la Tulia ce soir-là était donc dans l'ordre des choses possibles, et même fatales. Les aventuriers qui la montaient n'avaient rien à envier à leurs ancêtres pour la bestialité de leurs appétits et la cruauté de leurs réjouissances. Gisèle fut attachée, à demi nue au mât de misaine. Pallas fut ligoté au grand mât. Un matelot, sur l'ordre d'Arigonde, s'en vint, armé d'une garcette, et le supplice de Gisèle commença. Mais ce fut le cri de Pallas qui couvrit les gémissements de la pauvre enfant et perça la nuit. La jeune fille pencha sa tête sur son épaule, comme un oiseau qui meurt. L'abominable Arigonde ne put s'empêcher d'admirer tant de grâce à l'agonie, et sans doute y prit-il quelque goût, car pour prolonger un moment aussi agréable et qui le vengeait à la fois du père et de la fille, il résolut de laisser celle-ci quelque temps dans cette position, honteusement exposée au regard de ses démons. Il suspendit donc le supplice et revint prendre place aux côtés de Nicopoli en disant « Prenons d'abord des forces !» Et il emplit son verre. Ce que Pallas put souffrir dans l'horrible attente de ce qui allait se passer ajouta une joie inappréciable à tout le plaisir que le barbare se promettait. On but encore. Les lourds couplets de matelots tournèrent au son d'une guitare que le maître coq grattait avec mélancolie. Ce vieillard, sale et poisseux, paraissait être revenu de beaucoup de choses et ne prendre qu'un intérêt médiocre à des réjouissances qui l'accompagnait depuis de trop nombreuses années de la même harmonie. À plusieurs reprises, Pallas eut de ces sursauts qui prouvaient un suprême effort pour se débarrasser de sa prison de cordes. Et chaque fois, sa tentative lui valait des lazzi et un examen sérieux de ses liens, ainsi qu'un redoublement de précautions. Arrigonde, ayant jugé bon tout à coup d'en finir, ramassa la garcette à ses pieds et se dirigea vers Gisèle. Pallas l'arrêta au passage d'un râle, pour la première fois suppliant. « une fortune si tu ne touches pas à cet enfant !»«
Tu m'as déjà chanté cet air-là, » lui répliqua le misérable.
« Ça ne prend plus. Et puis ta fortune, si je dois l'avoir, je l'aurai. Mais laisse-moi prendre la peau de ta fille d'abord. »
Alors, levant son bras, il commença de frapper. Un cri monta vers les étoiles, si aigu, si douloureux et si émouvant que les airs en furent déchirés et que la vaste mer frissonnante parut répondre à cette clameur d'ange torturé par Satan par une autre clameur innombrable. Effrayés de ces bruits inattendus, les matelots avaient suspendu leurs abominables jeux et le bras d'Arrigonde ne s'abaissa point une seconde fois. Du reste, dans le même moment, des coups de feu éclatèrent. Un matelot, auprès d'Arrigonde, bascula, frappé à mort, et des ombres bondirent sur le pont qui semblèrent venues du ciel pour sauver Gisèle de son affreux supplice. Pallas eut un grand cri de joie et de triomphe.
« Chérie Bibi ! Chérie Bibi !»
« Me voilà, mon poteau, à pas peur, c'est pas encore aujourd'hui qu'ils t'auront. »
Il arrivait en effet, géant de la délivrance envoyé par Dieu ou par le diable, et déjà il faisait autour de lui un terrible carnage. Il avait ramassé une barre de fer et son moulinet brisait les têtes comme coques de noix et rompait les membres. À son côté, Françoise, que Pallas n'avait pas reconnue, veillait sur Chéri Bibi comme le fils du roi Jean à la bataille de Poitiers. Elle lui criait « À droite, à gauche !» Une attaque étant survenue par derrière, la jeune femme déchargea son revolver sur l'homme qui menaçait le bandit sauveur. La ficelle avait retrouvé tout son entrain d'autrefois. Lorsque, persuadé qu'il n'y avait plus rien à faire pour éviter les coups, il se mettait à en distribuer avec une rage d'autant plus grande qu'il ne se trouvait pas là pour son plaisir. Zoé, la petite Zoé elle-même, avait ramassé une hache et frappait à tour de bras. Quant à Yo-Yo, c'est lui qui était monté, ou plutôt qui avait grimpé le premier à bord avec l'agilité d'un singe. Aussitôt sur le pont, Yo-Yo s'était rué dans les haubans, avait couru dans la mâture, s'était allongé dans les vergues et faisait pleuvoir de là-haut des pruneaux, qui ne sortait certainement point de la rue Saint-Roch, où il n'y a pas d'armurier. Cependant, toute cette troupe ne faisait jamais que 5 unités, dont 2 femmes. L'équipage, après le premier moment de stupéfaction et d'effroi, s'était ressaisi. Il se rendait compte du petit nombre des agresseurs. Amorgos, frappé à mort, râlait. Mais Nicopoli hurlait et tâchait de mettre un peu d'ordre dans la bataille. Ayant réuni 10 hommes qui avaient trouvé à s'armer et qui n'étaient pas encore trop éclopés, il se précipita à leur tête sur Chéri Bibi, qu'il avait jugé le seul redoutable. Et une lutte décisive s'engagea. 10 hommes, même rendus enragés par l'alcool, n'étaient point pour faire peur aux forçats. Cependant, ayant vu Françoise en danger, il dut reculer pour lui porter secours, et se trouva tout à coup dans une situation des plus critiques. 2 pirates avaient réussi à s'emparer de Françoise et l'entraîner déjà, quand Chéri Bibi, voyant cela, ne s'était plus occupé que d'elle et avait tourné le dos à ses propres ennemis, courant au plus pressé. Mouvement fatal.
dont les hommes de Nicopolis profitèrent pour l'acculer à la chaloupe, arrimée maintenant sur le pont, et sous laquelle le forçat ne fut plus libre de manier la massue qui le faisait si redoutable. Les autres poussèrent des hurlements de triomphe, car Chéri-Bibi paraissait bien perdu. Quand tout à coup, les plus proches de ses agresseurs basculèrent, et du même coup Françoise fut délivrée. Il semblait que la chaloupe fût soudain habitée par le diable, et c'était bien une sorte de diable, en effet, qui surgissait de là, comme d'une boîte, pour foudroyer ses propres troupes dont il devait avoir besoin en enfer. Yo-Yo avait tout du démon avec sa peau brûlée, ses yeux de braise et les mèches bizarres de ses cheveux qui lui faisaient au front comme des cornes de bouc. Pendant toutes ces péripéties, que devenait le Parisien? Arrigonde ne perdait pas son temps. Il connaissait Chéri-Bibi. Il savait l'équipage nombreux, mais plus qu'à moitié ivre. Il avait jugé que le résultat du combat restait fort problématique, et comme il n'aimait point à courir de risques, il avait tout de suite pris son parti. Quitter le bord le plus tôt possible avec ses prisonniers. Ce plan lui fut singulièrement facilité par le fait que le canot automobile qui avait amené les agresseurs à bord de la Tulia était maintenant à la disposition de Nicopolis. Ce canot n'était autre que celui qui avait servi à Arrigonde à aborder à la Villa Thalassa, et qu'il avait ramené dans le vieux port. Il n'appartenait point à la Tulia, et quand celle-ci avait pris la mer, Yo-Yo avait remarqué que le canot automobile restait à quai. Pallas s'était jeté avec tant de précipitation à l'eau que Yo-Yo n'avait même pas eu le temps d'imaginer que cette embarcation pouvait leur être utile. C'est cependant avec ce canot, dont il put s'emparer quelques minutes plus tard, qu'il avait accouru annoncer les événements à Chéri-Bibi. Yo-Yo avait entendu les matelots dire entre eux qu'ils allaient faire escale à San Remo, et la question se posa d'aller à San Remo ou de courir su à la Tulia. Heureusement que Chéri-Bibi décida de courir su à la Goélette, sans désemparer. Cette décision était moins due à son astuce qu'à sa nature prime sautière, qui le conduisait droit au danger que courait Pallas. L'expédition fut servie par la petite noce qui se faisait à bord. Nul ne prit garde à cette chaloupe qui courait à la Tulia sans aucune précaution. Les cris du supplice perçus par Françoise et Chéri-Bibi leur faisaient négliger toute prudence, si bien que tout le petit équipage se rua à bord à la suite de Yo-Yo et que le canot automobile devint le butin de celui qui put s'en emparer. Sitôt que Nicopolis eut averti Arrigonde que l'on disposait du canot automobile, celui-ci sut ce qui lui restait à faire. Pallas et Gisèle, dûment bâillonnés, furent descendus comme des paquets dans le canot, par les soins même de Nicopolis, qui avait lâché un instant les combattants et qui avait approuvé la décision d'Arrigonde, décision qui pouvait lui servir à lui-même à tout hasard. Elle lui servit sûrement. Car une chose que le Parisien n'avait pas dite au second de la Tulia, c'est qu'il venait de mettre le feu au bâtiment, trouvant l'occasion bonne de réduire en cendres Chéri-Bibi et toute sa clique. Quand, à bord, les derniers combattants s'aperçurent de l'incendie, le canot automobile s'était déjà éloigné de plusieurs brasses. Ce fut à ce moment seulement que Pallas, à la lueur de la goélette qui brûlait comme une torche, distingua nettement, pour la première fois, les traits de Françoise, qui, penchée au-dessus du bastingage, regardait le canot qui les avait amenés partir sans elle. Depuis qu'elle était sur la Tulia, tous les efforts de Françoise pour se rapprocher de Pallas avaient été repoussés. Elle ne le voyait plus sur le pont, à cette place où il avait fait si formidable figure de martyr. Où était-il ? Pallas, parvenant à se défaire de son bâillon, poussa un cri suprême vers elle. « Françoise !» auquel répondit un cri désespéré. « Didier !» Chéri-Bibi avait entendu, vu, compris. Il ne lui restait qu'un espoir, la chaloupe du bord. Heureusement que l'équipage était maintenant à peu près réduit à rien. Les derniers éclopés, fuyant l'incendie, se précipitèrent en vain sur la petite embarcation. Chéri Bibi et sa troupe en restèrent les maîtres, la mirent rapidement à l'eau et purent quitter, sans trop de dommages, ce champ de carnage qui était devenu le pont de la Tulia. Quelques derniers coups de feu furent tirés dans leur direction, puis des hommes se jetèrent à la mer pour ne pas être brûlés vifs. Désespérément, près de disparaître sous les flots, ils réclamaient du secours, suppliaient, criaient vers la chaloupe. Mais dans celle-ci, on avait autre chose à faire que de s'occuper de l'agonie de quelques pirates. Dans le sillage du canot automobile, Françoise et Chéri Bibi voyaient s'éloigner Arrigonde et ses victimes avec une rapidité qui ne leur laissait aucun espoir. Il y eut encore des clameurs, quelques appels déchirants au-dessus de la mer embrasée. Françoise, debout dans la chaloupe, se tordait les mains. Chéri Bibi la fit asseoir et commanda de sa voix rude « À menton !» Il n'y avait plus, en effet, qu'à rejoindre la côte au plus tôt et à y poursuivre ceux qui allaient pouvoir, avant eux, l'atteindre et y chercher un mystérieux refuge.